Chapitre 8. La trêve. Comme chaque année, lors des jours qui suivaient le birthday, un magnifique soleil s'était installé au-dessus de la ville. Pendant des semaines entières, il brillait au milieu d'un ciel bleu presque sans nuages. Le soleil de fer, rouge comme jamais, semblait brûler et même peut-être fondre sous l'intensité des rayons de son frère de feu. La chaleur dans le tipi, derrière les peaux et tissus, devenait intenable dans la journée. Mais Hakan avait ordonné de ne pas les décrocher. D'une part, il fallait des semaines pour les fixer aux poutres de fer tout en assurant l'étanchéité maximale du tipi. D'autre part, de violents orages éclataient souvent en fin de journée, noyant la ville pendant une petite heure, rafraîchissant la nuit avant que le soleil du matin ne reprenne son règne triomphal et ne grille à nouveau fleurs, feuilles et peaux. Dans la journée, les enfants descendaient au fleuve. Ils passaient le plus de temps possible sur l'île aux cygnes et s'installaient sur toute la longueur de l'interminable allée qui n'était plus qu'un collier de corps nus étalés. Ils plongeaient dans le fleuve, s'éclaboussaient, inventaient des jeux aquatiques. Baleine me mangera, sol raido, fil anguille. Les meilleurs nageurs traversaient le fleuve d'une rive à l'autre, puis demeuraient des heures allongés sur les cailloux gris au bord de l'eau ou sous les arbres quand il faisait vraiment trop chaud. Les enfants du tipi profitaient. Ils commençaient à se souvenir des années précédentes et savaient que ces longs jours ensoleillés entre le birthday et la grande battue seraient suivis d'interminables jours de pluie, puis de froid, à grelotter et à se dire que jamais la chaleur ne reviendrait. Pourtant, malgré les températures écrasantes, tous ne se comportaient pas comme des lézards. Un petit groupe de garçons et de filles du tipi était obligé de continuer de marcher, trempés de sueur, dans les rues brûlantes ou les clairières de la forêt. Pas pour chasser. Leur mission, confiée par Hakan, était de surveiller les animaux. La patrouille de 5 enfants était commandée par Bill, chargé de tout ce qui concernait la sécurité, et par Agnel, pour tout ce qui concernait les observations. Depuis le mal de ventre de Gulo Gulo, le jour où les chasseurs étaient revenus de la forêt en criant que le loup Nero les poursuivait, plus personne n'avait été malade. Aucun autre animal empoisonné n'avait été repéré. Tous commençaient à oublier cet épisode, la peur, les mises en garde d'Akan, les enfants du château qui chercheraient à les empoisonner, la nourriture qui pourrait manquer, et même le loup Nero qui les guettait dans la forêt. C'était la trêve. C'était ainsi que les enfants du tipi avaient baptisé les longs jours ensoleillés, du lendemain du birthday jusqu'à la grande battue. Pendant ces semaines les plus chaudes de l'année, on pouvait encore pêcher et essayer d'attraper des poissons à main nue dans le fleuve, mais il était interdit de chasser. Nul ne savait d'où venait cette habitude, ni qui la leur avait enseignée, mais Hakan prenait soin de la respecter. Le chef du tipi leur avait expliqué que les bébés d'animaux naissaient juste après le birthday, et avaient besoin de leur maman pour grandir. Les mamans chèvres, ou biches, ou musaraignes, nourrissaient leurs bébés de leur lait, et si on tuait les animaux au hasard, une maman par exemple, c'était tous les bébés animaux qui mouraient ensuite. Et du coup, les années suivantes, il n'y aurait plus assez d'animaux à chasser. Il fallait donc observer une trêve, jusqu'à ce que les bébés animaux grandissent, jusqu'à ce que les petits puissent se passer de leurs parents et se débrouiller tout seuls. Comme eux. Exactement comme eux. Épargnés dans la ville, dans la forêt, pendant la trêve, les bébés animaux naissaient en paix. Pourtant, il en manquait. C'était ce qu'affirmait Agnel, alors que Bill et les autres membres de l'expédition protestaient, pestaient, épuisés de devoir marcher sous le soleil dans les rues sans ombre. Parfois, ils croisaient des chiens errants, endormis dans la fraîcheur d'un parc ou sous un banc, et les enviait de n'avoir rien d'autre à faire que la sieste toute la journée. « Il manque des animaux, » assurait Agnel. « Surtout des oiseaux. Le compte n'y est pas. » Les autres enfants de la patrouille, Wayne, Cheyenne, Suzy, pensaient qu'Agnel racontait n'importe quoi. Si leur chef, Hakan et Mordelia, ne leur avaient pas demandé, jour après jour, d'y retourner, ils auraient laissé tomber leur expédition et seraient allés avec les autres se baigner et dormir près du fleuve. Mais non, Il fallait suivre ce fou Daniel, ce garçon si maigre qu'aucune goutte de sueur ne semblait jamais couler de son front ou le long de son dos. Il se penchait sur des nids et prétendait que les œufs étaient moins nombreux que les années précédentes. Ou bien il s'étonnait de ne pas avoir revu de roitelet, de mésange, de rouge-gorge, ou même les faucons habituellement perchés sur les plus hauts bâtiments de la ville pour mieux repérer les rats et les souris. Pourtant, le ciel, les toits, les arbres restaient peuplés de dizaines d'oiseaux, chantant dès les premières lueurs du matin. Agnelle prétendait que leur chorale était inachevée, qu'il manquait quelques chanteurs, que certains des oiseaux qui revenaient chaque année dans la ville après le birthday, son livre sur les oiseaux les appelait les migrateurs, n'étaient pas encore arrivés, ou déjà repartis, ou morts quelque part. Bill, lui, n'y croyait pas. Il s'arrêta un jour, trempé de sueur, au pied du grand escalier, face au tipi, de l'autre côté du fleuve.
« N'importe quoi !» lança-t-il à la figure d'Agnel. « Si tu avais raison, on marcherait sur des oiseaux morts un peu partout par terre. On se promène depuis des jours et l'on n'a pas croisé un seul cadavre !»
Toute la patrouille exténuée confirma. « Les oiseaux se cachent pour mourir, » expliqua doucement Agnel. « Regardez, observez. Il y a des dizaines de pigeons et de moineaux vivant au-dessus de vous. » Tous ses compagnons levèrent les yeux. « Et aucun ne tombe jamais sur vos têtes. Pourquoi ?»« Parce que les oiseaux malades se protègent dans des buissons, dans des trous de rochers pour ne pas se faire dévorer, pour rester vivants un peu plus longtemps. »
« Rien de bizarre, alors ?» grogna Bill. « C'est normal que les animaux disparaissent sans laisser de traces. »
Les compagnons de la petite troupe semblaient plutôt d'accord avec Bill, jusqu'à ce que quelques jours plus tard, lors d'une autre expédition, plus lointaine près de la tour noire, Agnelle s'arrête en pleine rue devant trois cadavres de pigeons allongés côte à côte.
« Ils ne devraient pas être là, » fit Agnelle en se penchant. « Ces pigeons sont morts depuis plusieurs semaines. Les chats sauvages, les rats ou les vers auraient dû les nettoyer. Il ne devrait rester que des os et un bec. Si trois pigeons sont là, morts au même endroit, c'est que les autres animaux n'en ont pas voulu. C'est qu'ils ne sont pas bons à manger. Les animaux sentent plus vite que nous ces choses-là. »
Bill ne sembla pas convaincu par les arguments d'Agnelle.
Quand on ne trouvait pas de cadavres d'oiseaux, c'était louche, et quand on en trouvait, c'était encore plus louche. Agnelle racontait n'importe quoi pour les effrayer. Et ça fonctionnait.
Akan et Mordelia écoutèrent avec attention le récit des découvertes d'Agnelle et ordonnèrent à la patrouille de continuer de marcher. Marcher, marcher, peu importait qu'elle soit terrassée par la canicule. Akan et Mordelia ne voulaient prendre aucun risque avant la fin de la trêve, jusqu'à la grande battue. Peut-être que d'ici là, Zizo serait revenu. Depuis le début de la trêve, personne n'avait découvert la moindre trace de Zizo, ni d'ailleurs croisé le moindre enfant du château. Malgré la chaleur, ils ne semblaient pas sortir de leur refuge, ni se baigner dans le fleuve, ni rechercher l'ombre des forêts. La patrouille de Bill apercevait parfois quelques ombres au loin qui disparaissaient dans les trous des M dès qu'ils s'approchaient. « Comme des taupes, » pensait Bill, « ou des rats. » D'ailleurs, pendant les heures passées à marcher dans la ville pour compter ces foutus volatiles, chercher leur nid ou leur cadavre, Bill ne cessait de parler. Bill était l'un des rares enfants du tipi, avec Agnelle et Mordelia, à posséder un livre. Celui de Bill était un livre d'images d'animaux sauvages. Bill ne savait plus lire depuis des années, mais il pouvait rester pendant des heures à le feuilleter et observer les gorilles au milieu d'arbres géants, les chameaux dans le sable, les pingouins entassés sur la glace. Ces quelques images avaient permis à Bill de comprendre ce qui s'était passé avant qu'il naisse. Il avait sa théorie. Dans un passé lointain, il en était certain, tous ces animaux vivaient ici, dans la ville, avant les catastrophes, avant les très grands froids, les très grands chauds et les très grands vents. Alors qu'il franchissait un pont, Bill expliqua à ses compagnons qu'il y a longtemps, le fleuve était une rue comme les autres, grise et solide, on pouvait marcher dessus. Mais une année, il avait fait si chaud, bien davantage qu'aujourd'hui, que la rue avait fondu, les cailloux s'étaient transformés en gouttes d'eau, et le fleuve ainsi était né. Tous les enfants de l'expédition, à l'exception d'Agnel, écoutaient, impressionnés. Une autre fois, alors que la patrouille longeait un grand bâtiment,
une gare, le nom était gravé sur la façade, Bill leur montra les barres de fer alignées par terre qui formaient des dizaines de longs chemins parallèles. Il expliqua que ces barres de fer provenaient de tours semblables aux tipis, des centaines, mais qu'une nuit de très grand vent, elles s'étaient toutes écroulées. Toutes, sauf la leur. C'est pour cela qu'il fallait se méfier. Le tipi n'était pas si solide. Le vent pouvait revenir et il serait plus prudent un jour de s'installer dans le château et d'en chasser ses occupants. Quand Suzy lui avait fait remarquer que les barres de fer par terre étaient toutes bien droites, comme rangées, et semblaient tracer une route jusqu'à l'infini, là où personne n'était jamais allé, Bill avait répondu que c'était parce que les tours de fer d'avant étaient immenses, touchaient presque le ciel, hautes, trop hautes, et c'est justement pour cela que le vent les avait fait basculer. La plupart des enfants trouvaient son raisonnement logique et tremblaient dans leur lit chaque fois qu'une tempête soufflait sur le tipi. Selon Bill, les trous de Lem étaient des terriers creusés il y a très longtemps par des animaux gigantesques, et il le prouvait en montrant des images de serpents appelés boa ou anaconda, plus longs que 10 enfants se tenant par la main, ou des photos d'incroyables lapins géants portant leur bébé dans une poche appelée kangourou. Les tours, les sanctuaires, les plus hautes maisons, certifiait Bill, avaient été construits à l'aide d'animaux de toutes sortes, dont le seul cou était aussi haut que le tipi, qu'on appelait dinosaure. Sinon, répondait Bill aux incrédules comme Agnel, Chrysante ou Vanille, comment s'y serait-on pris pour hisser des pierres ou des barres de fer aussi haut? Et il existait bien, il y a très longtemps, des animaux fantastiques dont on voyait encore les traces. Certains, lors d'une nuit très froide, avaient été pris par les glaces et s'étaient transformés en statues. On les croisait un peu partout dans la ville. Des aigles, des lions, des chevaux, parfois même des chevaux avec des ailes ou une corne unique sur la tête. Tous avaient été gelés sur place et leur chair, avec le temps, était devenue aussi sale et dure que de la pierre. Bill tournait les pages de son livre d'images pour bien prouver qu'il n'inventait rien, même si jamais il ne racontait ses histoires devant Mordelia ou Akan. Parfois, Bill s'asseyait au premier étage du tipi et les enfants venaient autour de lui pour observer son livre et écouter ses explications, subjugués. Derrière eux, Chrysante, berçant sa poupée, commentait. « Ma petite Lali, si tu es sage, tonton Bill va te raconter une histoire. Tu voudras que je lui demande avant que tu t'endormes? Une belle histoire débile de tonton Bill ?»